Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
C'est parti pour une semaine de chaleur intense dans toute la France.
Et oui, puisque les températures vont dépasser les 40 degrés dans certaines zones, le spectre de la canicule de 2003 qui avait causé 15 000 morts est là. Nous ferons un inventaire du ressenti de ces chaleurs auprès de vous au quotidien et particulièrement chez les personnes les plus fragiles. Et puis nous entendrons un prévisionniste de Météo France qui vous dira la chose suivante, se ruer sur les climatiseurs, c'est la catastrophe pour la planète. L'autre grand titre de l'actualité, c'est ce témoignage, celui du seul survivant du crash de l'avion de la One2Go à Phuket en 2007, seul survivant français. Bilan, 90 morts, dont 9 français. Mais Thibault a survécu, il fait partie justement de ceux qui ont évité cette catastrophe aérienne. Dans ce journal également, l'affaire Lambert, on risque de repartir dans la procédure. Le procureur près la cour de cassation s'apprête à plaider aujourd'hui pour l'arrêt des soins. Explications techniques, mais importantes à suivre. Faites-vous partie de ceux qui se sont fait voler leur voiture par le biais d'une attaque relais, c'est-à-dire le signal émis par les clés de votre véhicule. Ces attaques explosent. Les footballeuses tricolores l'ont emporté sur le Brésil hier. Encore un succès. Et nous verrons aussi comment elle se prépare à jouer par ces températures extrêmes. Ma transition est toute trouvée. Léna Morna, la canicule, ça n'est qu'un début.
Oui, avec les trois quarts du pays cet après-midi au-dessus de 30 degrés, un ciel voilé à l'ouest, plus clair à l'est, un peu plus chaud demain, encore plus chaud mercredi, pic de chaleur jeudi et vendredi, avec des ressentis pouvant atteindre par endroits 45 à 48 degrés. Canicule qui devra durer au moins jusqu'à samedi.
Merci Léna. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
C'est donc parti, Pierre, pour cette canicule. Et bien sûr, les personnes âgées et les enfants sont en ligne de mire dans ce genre d'épisode.
Et nous sommes donc allés voir par nous-mêmes. Chanel Petit, vous vous trouvez dans une maison de soins pour personnes âgées dans le 16e arrondissement de Paris où, bien sûr, on est très, très attentif à cette canicule.
Oui, les ventilateurs tournent à fond dans chaque pièce de cette maison de soins qui accueille une vingtaine de personnes âgées dépendantes. Myriam, la responsable logistique, est très attentive à ce que les résidents n'attrapent pas un coup de chaud.
C'est suffocant pour eux, c'est difficile, ils vont beaucoup plus lentement, ils peuvent avoir des étourdissements, des choses comme ça. Donc effectivement, oui, c'est très compliqué à vivre pour eux. Chaque membre de l'équipe va avoir des tranches horaires dans lesquelles ils vont penser à proposer des verres d'eau, trois petits verres d'eau par heure. On ferme les volets de telle sorte que la pièce reste fraîche le plus longtemps possible. Donc ça passe par des petits gestes simples comme ça.
Et comme il reste de la place dans cette maison de soins, Célia, la directrice, a décidé d'ouvrir ses portes.
Nous proposons d'accueillir trois personnes pour trois demi-journées gratuitement qui peuvent appeler dès cet après-midi. Mais si vous passez dans la rue, si vous êtes fatigué, si vous avez chaud, vous sonnez, vous rentrez et vous avez aussi la possibilité de passer un moment bienveillant et rafraîchissant.
Donc si vous habitez non loin du 16e arrondissement de Paris, que vous cherchez un petit peu de fraîcheur, n'hésitez pas à passer, ça s'appelle la Maison Felipe.
Merci Chanel Petit. Donc dans cette maison de soins pour personnes âgées à Paris dans le 16e, n'oubliez pas, pour vos enfants, vêtements légers, bien leur couvrir la tête et surtout les faire boire régulièrement. Les enfants, c'est comme les seniors, ils n'ont pas le réflexe de s'hydrater.
Et Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, l'a d'ailleurs précisé. Écoutez, c'était tout à l'heure.
Bien les couvrir, les protéger du soleil avec des casquettes, des lunettes, des t-shirts à manches longues. Ne pas les laisser dans la voiture, même sur un temps très très court. Et puis par ailleurs, porter une attention très particulière au point d'eau. 1600 noyades l'année dernière, dont 500 décès, avec de nombreux enfants et adolescents parmi eux. Donc ne jamais les quitter des yeux. Par ailleurs, les établissements scolaires, mais également les crèches, ont reçu des recommandations pour faire en sorte que les activités soient limitées, pour adapter l'alimentation des enfants, pour faire en sorte de préserver une température ambiante dans les différentes salles dans lesquelles ils se trouvent. Il y a près de 150 000 de nos enfants qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, qui sont dans des établissements ou dans des familles d'accueil. Il faut bien veiller à ce qu'eux aussi puissent bénéficier de toutes les mesures que nous recommandons.
Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance au micro Europe 1 de Sébastien Rouxel. Et puis il y a, comme dans chaque épisode caniculaire, des métiers plus exposés que d'autres. C'est le cas des ouvriers sur les chantiers.
En effet, en particulier chez ceux qu'on appelle les asphalteurs, ceux qui posent le goudron sur les routes. Justin Morin les a rencontrés sur les trottoirs parisiens. Reportage.
Ils sont cinq à se relayer pour étaler au sol le goudron noir encore fumant. Agenouillé à même le trottoir, c'est au tour d'Hugo.
C'est trop physique.
Philippe lui ramène régulièrement des seaux remplis de goudron. Il craint la canicule qui va complexifier un peu plus leur mission.
L'asphalte, il est chaud, il a 200 degrés, donc ça va être pire. C'est comme ça, hein. On va s'adapter, on va commencer plus tôt. Et si on voit qu'il fait trop chaud, ben on arrête, on se donne rendez-vous au café. Hein.
Son patron plaisante moins, son équipe est tenue par des délais. Pour Louis, il n'y a pas 36 solutions.
On est très matinal en fait. On commence à 4h30 du matin, vers midi, 1h, on rentre. Il n'y a pas de solution miracle. Ouais. On s'hydrate, on se mouille un petit peu, on arrête, on fait une pause, on boit, on se rafraîchit. Quand ça va pas, bon, on arrête. Hein.
Alors j'ai quand même rencontré un ouvrier à contre-courant.
Bah, je suis content.
Fernando, cette chaleur, ça lui rappelle son pays, le Portugal.
Le conseil que moi je donne, il faut boire beaucoup de l'eau, surtout pas d'alcool. Cigarettes aussi, il faut éviter pour que ça fasse chauffer aussi.
Il se limitera à 5 cigarettes dans la journée au lieu d'un paquet. Son collègue, lui, préfère prévoir plusieurs t-shirts de rechange. À chacun sa technique pour rester au frais.
Reportage de Justin Morin. L'épicentre de cette canicule, en tout cas aujourd'hui, se situe autour de la région lyonnaise. Jean-Luc Boujon, vous vous situez place Bellecour, en plein centre de Lyon. Est-ce que vous tenez le choc, Jean-Luc ?
Oui, moi ça va, Pierre, mais c'est vrai que la température est déjà absolument accablante à cette heure. 30 degrés tout pile pour l'instant en plein centre de Lyon et Michel souffre déjà beaucoup de la chaleur, écoutez.
On n'entend pas Michel malheureusement.
Elle est terrible, hein. Elle fait souffrir. Hein. Il fait une chaleur horrible. Hein. Ouais. On a beau faire des courants d'air, des trucs, mais on préfère rester chez nous. Puis on attend plus tard pour sortir.
Vous avez tout fermé chez vous ?
Ah oui, chez moi je ferme tout, hein, ouais, les volets, enfin les stores quoi, qui descendent. Mais il fait quand même chaud, hein, terrible hein, ici.
Alors pour Claire, la première préoccupation, c'est son garçon de 1 an et sa petite de 4 ans. C'est pour cela qu'elle est allée ce matin à la première heure acheter de quoi rafraîchir la maison.
J'ai validé le magasin pour mes enfants pour la nuit. J'ai une maison qui est explosée plein sud, donc du coup j'appréhende un peu la nuit avec les petits en bas âge. Donc il y a une climatisation et 3 ventilateurs pour la maison pour essayer de supporter les chaleurs du coup. Donc ça me fait un petit peu peur. On verra comment on supporte ça avec du coup l'investissement que je viens de faire.
Combien ? Vous en avez pour combien ?
789 euros.
Ah ouais ?
Ouais, 500 euros à peu près la climatisation et 70 euros pièce le ventilateur. Du coup c'est un budget, mais bon, il va bien falloir ça dans les années à venir quoi. Donc voilà, pas de regrets.
Et dans ce magasin de bricolage, c'est la ruée sur ses climatiseurs et autres ventilateurs. Le stock a fondu ce week-end et il n'en reste plus grand-chose. Du coup, Jean, retraité, se dépêche.
Là, je pars au plus pressé. Il y a urgence parce que moi, je suis dans les populations à risque. Je suis asthmatique de base, puis j'ai été opéré du cœur. Donc, deux choses qui font que la chaleur m'est pénible. Même dans une maison très bien isolée comme chez moi, ça ne suffit pas. Les nuits sont pénibles parce que la température ne baisse pas beaucoup. Ça peut être sérieux, quoi.
Voilà, sage précaution pour Jean, d'autant qu'on est au début de cette canicule. On devrait atteindre 35-36 degrés aujourd'hui, mais sans doute plus de 40 mercredi et jeudi ici à Lyon.
Merci Jean-Luc Boujon, en direct de Lyon pour Europe 1.
Et peut-être que vous vous dites que vous êtes privilégié en écoutant le reportage de Jean-Luc Boujon dans une voiture climatisée ou dans un bureau climatisé. Mais attention Pierre, la clim, ce n'est pas la solution.
Ouais, écoutez bien ce que va vous dire ce prévisionniste de Météo France. Emmanuel Bocri était l'invité ce matin de Nikos Aliagas à 7h45.
La clim partout, ça peut être bien momentanément, mais c'est une catastrophe. Si vous prenez une rue, on a fait l'étude, si on prend une rue de Paris par exemple, dans laquelle tous les appartements seraient équipés de climatiseurs, et ben nature, avec ce phénomène-là, on augmenterait de 1 ou 2 degrés la température dans la rue. Donc ça serait assez catastrophique. Il y a des phénomènes, des choses qu'on peut faire simplement. La ville de Paris a fait des tests avec Météo France, c'est d'arroser certaines rues de Paris pour voir ce que ça faisait. Et on fait descendre de 1 ou 2 degrés localement la température.
Arroser, végétaliser aussi ?
Végétaliser, ça serait une très belle opération. D'abord, ça apporte de l'ombre, ça apporte de l'humidité.
Il y a 2 degrés de moins quand il y a une forêt.
Il y a 1 à 2 degrés de moins, on peut faire descendre doucement la température.
Et Emmanuel Bocri, prévisionniste à Météo France, qui nous dit donc que la clim, c'est la catastrophe si on se rue dessus. Il était l'invité de Nikos Aliagas ce matin sur Europe 1. Puis petite info transmise par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, les transports en commun de la région vont être peu à peu climatisés, mais d'ici 5 ans.
Il est 12h39.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Pierre, sur cet épisode caniculaire. On va évidemment en reparler tout au long de cette semaine sur Europe 1. Météo complète, n'oubliez pas, d'ici 20 minutes. Et puis, dans un instant, un témoignage extrêmement rare du survivant d'un crash aérien. À tout de suite.
Il est 12h42 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
C'était en 2007, un avion d'une compagnie low-cost thaïlandaise s'écrasait à Phuket. Bilan, 90 morts, dont 9 Français. Le procès Pierre s'ouvre aujourd'hui à Paris.
Procès d'un accident annoncé, disent les parties civiles, eu égard aux conditions de travail des pilotes, notamment les cadences infernales que la compagnie One2Go leur imposait. Le principal prévenu, le dirigeant de cette compagnie, qui transgressait visiblement toutes les règles de l'aviation, n'assistera pas au procès. Il n'a jamais répondu aux convocations des juges. C'est un très proche du royaume de Thaïlande. Thibault Lamère est l'un des seuls survivants de ce crash. C'est d'ailleurs le seul français. Il regrette bien sûr amèrement que le patron de la compagnie n'assiste pas au procès. Et dans ce document européen, il se souvient très bien de ce qui s'est passé ce jour-là.
Les souvenirs, ils sont quasiment intacts. Les images, l'odeur, tout est encore présent. Le copilote a amorcé la descente et en fait, on se sentait ballotté. Enfin, on sentait vraiment les décrochages de l'avion. Enfin, on n'avait pas l'impression que quelqu'un était aux commandes, quoi. Et quand il y a eu cette rafale qui nous a plaqué au sol, l'avion tape le sol, il le cogne et on se reprend une accélération. Et on va se planter dans un talus qui était à 80 ou 100 mètres au bord. Mais moi, quand je me réveille, l'avion est en feu et les pompiers sont en train d'essayer d'éteindre le feu.
Et vous êtes où ?
Je suis sur mon siège, mais mon fauteuil est arraché. En fait, je suis coincé, surélevé à la hauteur de la tête des gens, quoi. J'ai eu plus de... Ils ont compté à peu près 85 fractures. Mais en fait, je sentais pas mes jambes. J'avais l'impression d'être dans le vide. Après, les fractures qu'on peut avoir, enfin, c'est que du corporel, c'est pas ce qui a été le plus dur. Le plus dur, ça a été de rentrer seul de Thaïlande.
12 ans après, qu'est-ce que ça vous fait de voir enfin ce procès arriver et en même temps, il n'y aura personne à juger?
Bah, c'est un peu dommage qu'ils ne viennent pas, savoir qu'il y a personne qui va être en face de nous pour nous voir. C'est ça qui est frustrant.
Voilà le témoignage de Thibault Lamère avec Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Il y a en ce moment un détenu sur le toit de la prison de la Santé à Paris. Notre service police-justice s'est renseigné. Il y a en effet des équipes sur place pour éviter que ce détenu ne tombe. Un périmètre classique est mis en place. Cependant, pas de panique, c'est un détenu libérable cette semaine. Il aurait visiblement déjà fait le coup il y a quelques jours.
L'affaire Vincent Lambert, ça n'est toujours pas terminé. Pierre, la Cour de cassation va jouer un rôle important dès aujourd'hui.
Oui, on l'apprenait en milieu de semaine dernière, le procureur général François Molins s'apprête à renverser la situation dans le sens où il va plaider pour que la Cour casse la décision de la Cour d'appel qui, souvenez-vous, a décidé de la poursuite des traitements le mois dernier. C'est très technique car ça repose sur une décision de droit. Chloé Triomphe, on va vous écouter bien attentivement. Qu'est-ce qui va se jouer précisément et quelles conséquences pour Vincent Lambert ?
Oui, c'est une audience aussi complexe que déterminante qui va se tenir devant la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, c'est-à-dire devant son assemblée plénière. Et l'objet de cette audience, c'est de déterminer quel est le droit compétent dans ce dossier, judiciaire ou administratif. Alors si j'essaye de simplifier, il y a deux lectures dans cette affaire. Les tribunaux administratifs jusqu'au Conseil d'État ont validé l'arrêt des soins, mais la justice judiciaire, en l'occurrence la Cour d'appel de Paris, avait estimé le mois dernier que cela relevait d'une atteinte aux libertés individuelles, au droit à la vie et que par conséquent elle était compétente. C'est donc ce qui avait provoqué l'interruption in extremis de l'arrêt des soins entamé le 20 mai pour Vincent Lambert. Depuis, l'État s'est pourvu en cassation et la position de ce dernier via le procureur général près la Cour de cassation François Molins est claire. Cela relève du droit administratif. La décision sera mise en délibéré d'ici à quelques jours et pourrait, en fonction de sa nature, entraîner ou pas un nouvel arrêt des soins de Vincent Lambert.
Merci Chloé Triomphe.
Il est 12h46 sur Europe 1. La suite du journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Faites-vous partie de ceux qui se sont déjà fait voler leur voiture? Si oui, écoutez bien ce qui va suivre, car les techniques, Pierre, sont de plus en plus étonnantes.
Et de plus en plus propres, si j'ose dire. Plus aucune effraction dans certains cas au niveau du véhicule. Au total, 142 000 voitures et deux roues volées l'an dernier en France et 85% des voitures grâce au piratage informatique, Anne-Laure Jumet.
Oui, et là, il y a deux techniques. D'abord, un boîtier qui se branche à l'intérieur du véhicule et qui capte toutes les données nécessaires au démarrage de la voiture. Ça nécessite encore là de pénétrer à l'intérieur du véhicule. Et puis l'autre mode opératoire qui progresse fortement se fait lui effectivement sans trace d'effraction. Plus 10-15% l'an dernier pour ce mode opératoire qu'on appelle l'attaque relais selon le baromètre publié par Coyote Secure. Alors je vous donne un exemple. Votre voiture est garée devant chez vous. Le voleur s'approche de votre domicile où sont a priori les clés de voiture. Il lui suffit d'être dans un rayon de 10-15 mètres pour capter les données sur une autre clé et partir sans problème au volant de votre voiture. C'est ce qui est arrivé à Alexandra qui a retrouvé son véhicule à 200 km du lieu où elle l'avait garé.
Ma voiture
se trouvait dans un conteneur qui était sur le port du Havre en partance pour l'Afrique du Nord. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on en retrouvait chaque semaine. Ce seraient des réseaux qui seraient très organisés et en fait qui répondraient à des demandes particulières, soit pour les pays du Maghreb, soit pour les pays de l'Est.
Alors ces véhicules sont donc parfois retrouvés à temps grâce à des systèmes de géolocalisation, même si les voleurs utilisent de plus en plus des brouilleurs pour éviter qu'on retrouve leurs traces.
Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Que s'est-il passé avec Virginie Calmel, cette jupéiste de la première heure, quittait la politique en février dernier. On s'en souvient avec beaucoup de bruit. Elle avait depuis retrouvé un haut poste de co-actionnaire chez Barnes, cabinet d'immobilier de très grand luxe. Et ce matin, on apprend que le groupe immobilier se sépare d'elle après des dissensions majeure.
Direction maintenant, Pierre, Istanbul, en Turquie.
Oui, la capitale économique du pays a basculé dans l'opposition à Recep Erdogan après la victoire d'Ekrem İmamoğlu, élu maire d'Istanbul avec 54% des voix. Avec nous, le correspondant d'Europe 1 en Turquie, Guillaume Perrier. C'est un revers pour Erdogan, Guillaume, mais le pouvoir ne conteste pas.
Oui, la victoire est très nette et elle a été fêtée une bonne partie de la nuit dans de nombreux quartiers de la ville. Le candidat du parti au pouvoir a très tôt reconnu sa défaite. Il a souhaité bonne chance au nouveau maire. Même le président Erdogan a félicité Ekrem İmamoğlu. Il s'est contenté d'un tweet, mais sa réaction était très attendue pour que le résultat soit totalement validé. Car c'est bien lui le grand perdant de cette élection à portée nationale. Recep Tayyip Erdogan apparaît affaibli après 17 ans de pouvoir. Il va maintenant devoir contenir la vague d'espoir qu'a soulevé İmamoğlu, tenter de lui barrer la route avec toute son expérience. Pour cela, il pourrait décider par décret de réduire le rôle du maire, bloquer ses décisions, d'autant que le parti au pouvoir garde la main sur le conseil municipal. Plus risqué, il pourrait aussi pousser à la destitution d'İmamoğlu, comme il a menacé de le faire pendant la campagne. Un procès, une procédure administrative, il l'a déjà réalisé à de nombreuses reprises depuis 2014, notamment dans des villes kurdes. Mais avec la perte d'Istanbul, la dynamique n'est plus de son côté.
Merci Guillaume Perrier, correspondant d'Europe 1 en Turquie.
Il est 12h49.
Europe 1.
Restez avec nous, une nouvelle pause et dans un instant, les Bleus, toujours invincibles, et les Gorilles de Beauval qui vont partir direction le Gabon. A tout de suite.
Il est 12h52 sur Europe 1, la suite du journal de la mi-journée avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et avec le mondial de foot féminin, Pierre et les Bleus continuent leur petit bonhomme de chemin.
Ouais, avec une belle victoire face au Brésil hier soir au Havre, 2-1 après prolongation, elles iront donc en quart de finale. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
On peut parler d'une belle victoire parce que c'était pas évident.
Oui c'est ça, c'est vrai que dans le jeu, dans la qualité de jeu, c'était peut-être un petit peu poussif, mais c'est une victoire au bout d'un combat extraordinaire, au bout des prolongations. Et si cette victoire est belle, c'est aussi parce qu'elle va sans doute permettre à cette équipe de construire cette solidarité, de gagner encore en cohésion. Et puis, ça a aussi permis de lier un peu plus ces joueuses et leur public. Il fallait une épreuve du feu comme celle-là pour porter un peu plus encore cette équipe de France.
Simon, le prochain match pour les Bleus, c'est vendredi au Parc des Princes. Alors, soit l'Espagne, soit les États-Unis qui s'affrontent ce soir, 18h ?
Ouais, c'est ça, 99% de chance hein, pour que les États-Unis l'emportent. C'est vraiment une équipe largement supérieure à tout ce qui se fait par ailleurs en foot aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Évidemment, on va quand même avoir un œil sur ce match. Les joueuses de l'équipe de France aussi vont le regarder, mais ce serait un miracle si les Espagnols l'emportaient. On se profile donc vraiment vers un choc très attendu avant même le début de la compétition. Tout le monde avait le regard rivé sur ce quart de finale à venir.
Simon, comment ça se passe avec la canicule ? Les équipes continuent de jouer, mais comment elles font ?
Alors déjà, il y aura beaucoup plus de pauses fraîcheur pour hydrater les joueuses pendant les matchs. C'est dans le règlement de la FIFA. Corinne Diacre l'a précisé, on ne va pas faire des entraînements côté français très intenses cette semaine. Ça va être beaucoup de vidéos, on va rester plutôt au frais. Maintenant, les médecins du sport, spécialistes du haut niveau sont formels, c'est pas impossible de jouer un match de football, même par 40 degrés, il faut s'hydrater, prendre des précautions, mais a priori il n'y aura pas de soucis, ça va jouer, mais ça va être un vrai paramètre à prendre en compte, peut-être à l'avantage des Bleus, ça nivelle un peu les niveaux quand on part pas favori, conditions un peu extrêmes, ça peut aider parfois.
Il faut manger de la pastèque, je pense.
C'est ça.
Merci Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1, le sport encore avec la suite du feuilleton des soupçons de corruption et de dopage au niveau de l'athlé mondial. La justice ordonne un procès procès à Paris contre Lamine Diack, le principal protagoniste dans cette affaire.
Et puis c'est une première, Pierre. Deux gorilles du zoo de Beauval vont partir en milieu naturel au Gabon.
Oui, deux gorilles femelles nées en France, dans les plaines de l'Ouest, dans le beau zoo de Beauval. Elles ont pris l'avion ce matin, mais Claudia Bertram a pu leur rendre visite avant le départ.
Dans l'enclos Quimba, une gorille plutôt petite et trapue est très joueuse. Sa copine Mayombe, grande et gracieuse, elle est plus solitaire. Ces deux gorilles ont été choisies pour leur génétique, mais aussi pour leur caractère. Delphine Leroux est chef animalière adjointe du parc.
Il y en a une qui est plutôt une warrior. Elle a peur de rien, elle est combative, elle est toujours très joyeuse. L'autre est une femelle plus posée. Plus réfléchie, plus discrète. C'est bien, ça compense.
Au zoo, les deux gorilles ont été préparées pendant plusieurs semaines à leur nouvelle vie au Gabon. De nouveaux aliments plus acides et plus amers ont été introduits dans leur régime alimentaire. Et sur place, la transition se fera très progressivement. Rodolphe Delors, le directeur du zoo de Beauval.
Ne lâche pas deux gorilles dans la forêt comme ça. Ça va leur apprendre à se débrouiller. Ces gorilles vont être introduits sur une grande île au départ où ils vont être nourris pendant à peu près 6 mois. Ensuite, il y aura un pont qui va être établi en rondin de bois. Ils vont pouvoir rejoindre des gorilles qui ont déjà été réintroduites par le passé mais qui vivent à état sauvage.
Les deux gorilles vivront alors en pleine nature de façon complètement autonome mais toujours sous la surveillance de soigneurs locaux.
Reportage de Claudia Bertram.
Merci Pierre, vous revenez dans quelques minutes pour l'essentiel de l'actualité.
Il est 12h56, Europe 1.
Et vous restez avec nous sur Europe 1. Attention, les robots arrivent. A tout de suite.
C'est l'heure de la météo, Raphaël Duchemin.
Avec Elena Morna. Oh oui, on démarre la semaine à 30, on devrait la finir à plus de 40.
30 à 37 degrés déjà cet après-midi sur 80% du pays. Alors on a plus frais, c'est vrai, sous les nuages et les averses de la Bretagne, Pays de la Loire et Normandie avec 17 à Saint-Brieuc ou encore 21 à Brest, 25 à Nantes. Averses orageuses, attention localement fortes hein, quand même cet après-midi sur la Normandie. Plus frais aussi sur les rivages comme à Biarritz par exemple avec 24 degrés. Ce sont les entrées maritimes qui bloquent l'évolution des températures. Plus frais encore sur les plages méditerranéennes avec 27 à 29 degrés. Mais dès que vous allez dans les terres à quelques kilomètres, là on atteint 38 degrés. Alors ailleurs, c'est vrai que vous soyez sous les nuages à l'ouest ou sous les soleils à l'est, eh bien vous aurez 31 à Bordeaux et Marseille, 32 à Lille, Strasbourg et Toulouse, 33 à Vesoul et Nîmes, 34 à Paris et Lyon, 37 à Auxerre comme à Montluçon. La chaleur gagnera toute la France mercredi, pic de chaleur jeudi au vendredi, pile poil au moment du brevet des collèges. Et puis on va sans doute battre des records, ce d'août 2003, la seule différence c'est que on était en août, au cœur de l'été. On va sans doute battre les fameux 44,1 degrés du Gard.
Merci Elena. Nous sommes le lundi 24 juin, c'est l'heure des titres. Pierre Devineau.
Et au titre de la canicule, Agnès Buzyn appelle les Français à ne pas minimiser les risques pour la santé, soulignant qu'ils nous concernaient tous et non seulement les personnes vulnérables. L'ouverture à Paris du procès du crash d'un avion de la compagnie thaïlandaise One2Go, c'était en 2007, 90 morts, 9 Français. Le prévenu qui dirigeait à l'époque la compagnie sera absent du procès. Le mondial féminin de foot et les Bleus continuent leur petit bonhomme de chemin. 2-1 hier contre le Brésil. Prochain match vendredi au Parc des Princes, soit l'Espagne, mais vraisemblablement plutôt les États-Unis.
Merci Pierre, on vous retrouve dans une heure pour l'essentiel de l'actualité.
À suivre, la France bouge sur Europe 1.